Ça n'était pas forcément facile pour les auditeurs de Jésus et même ses disciples d'entendre la critique que Jésus adresse aux scribes. Pourquoi ? Parce que la vanité de la conduite des scribes, les robes solennelles, les salutations sur les places, les premières places au dîner, leur oubli du prochain, ils dévorent le bien des veuves, leur lien bancal au Seigneur, ils affectent de prier, eh bien on retrouve ces mêmes défauts chez les disciples et on le trouve même chez les apôtres. Vous vous souvenez que les apôtres se disputaient pour savoir qui est le plus grand parmi eux, qu'ils avaient voulu écarter les petits-enfants qui s'approchaient de Jésus pour prendre les premières places et se faire bénir. Jésus leur reproche aussi leur manque de foi. Ce n'était pas forcément simple d'entendre Jésus parler aux scribes et de se dire « Mais ne suis-je pas aussi concerné par ce qui est dit ?» Si bien qu'on peut se demander « Est-il possible de suivre le Maître ? Est-ce qu'il est possible de l'accompagner dans sa mission ?» On a envie de dire « À quoi bon ? La tâche est immense et les moyens bien pauvres. Comment être missionnaire aujourd'hui ? Dans sa salle de classe, dans sa famille, à son travail, au club de sport, dans des ambiances souvent déchristianisées, on a tendance à baisser d'avance les bras. On ne peut rien faire. Il faudrait des ressources autrement plus grandes, à grand renfort de médias, de compagnons nombreux et bien formés, parce qu'il n'y a aucun secours à trouver sur place. Et du coup, je ne fais rien, je renonce à faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est peut-être pour cela, face à cette tentation d'abattement, face à la mission, que Jésus convoque ses disciples. En effet, lorsque nous lisons dans cet évangile, Jésus s'adressa à ses disciples, il serait plus exact de traduire, il les appela, il les convoqua. Parce que dans l'évangile selon saint Marc, cette formule qui apparaît 6 fois correspond à un mouvement particulier. On pourrait dire, ce mouvement, c'est « Venez auprès de moi, que je vous prépare en mission, venez auprès de moi, que je vous envoie en mission. » Et cela dès la première fois, lorsque sur la montagne, il avait appelé parmi ses disciples 12 d'entre eux, qui devaient être ses compagnons et ceux qu'il envoyait prêcher. Cette fois-ci, Jésus les appelle au temple de Jérusalem pour qu'ils partagent d'abord ce que lui, Jésus, voit. En effet, de l'extérieur, on pourrait dire, mais il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas grand-chose à saisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Une femme, pauvre, peut-être âgée, une veuve, certainement. Elle vient de mettre une offrande dans le tronc du trésor du temple. C'était cette espèce de 13 réceptacles en forme de trompe renversée où l'on mettait, certains étaient à des intentions particulières, d'autres à des intentions générales, une petite offrande. Cette femme vient de mettre vraiment une toute petite offrande. Mais le regard de Jésus apporte une connaissance nouvelle. Elle a mis plus que tout le monde. Elle a mis de son indigence. Elle a tout donné. Et littéralement, elle a donné toute sa vie. Elle a tout donné. Avant même de penser que ce soit un exemple, c'est une lumière d'espérance que Jésus offre, que Jésus révèle à ses disciples. Eux-mêmes ont été invités à tout donner, à tout laisser pour suivre le Christ. C'était l'enseignement du Christ, la 4e fois qu'il les avait convoqués. Il fallait prendre sa croix. Et il disait, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Eh bien, il est donné à travers cette veuve, il est donné aux disciples de voir que d'autres vivent déjà de cette radicalité. Ils ne sont pas les seuls à avoir entendu l'appel de Dieu à un don plaigné. Ils ne sont pas les seuls à le vivre. Jésus leur donne de faire l'expérience que sur leur chemin, il y a des hommes et des femmes qui vivent la radicalité évangélique sans peut-être forcément la connaître très précisément, mais ils la vivent. Ils sont donc prêts à entendre l'Évangile. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais leur cœur a été travaillé par l'Esprit Saint et attend d'être moissonné par les envoyés du Seigneur. Il y a là où on ne les attend pas, avec l'aspect que l'on n'attend pas. La veuve, ça n'a rien de formidable extérieurement. Il y a des compagnons inattendus de bonté et de vérité. De même qu'Élie trouvait le secours improbable d'une veuve en terre païenne. Il faut se rappeler, il y avait une famine terrible dans la terre d'Israël et dans le pays de Sidon, au nord. Il n'y a plus rien à manger. Il est envoyé, pour ne pas mourir de faim, chez une pauvre veuve païenne. On pourrait dire, mais quelle très mauvaise idée. La veuve qui voit débarquer Élie, prophète d'un dieu qui n'est pas le sien, qui lui demande à manger. C'est-à-dire, mais c'est deux misères qui se rencontrent, ils vont mourir plus vite, hein. Et voilà que cette rencontre de, apparemment, ces deux indigences, de deux histoires qui étaient condamnées à la mort, pas de ressources, va donner lieu à quelque chose de miraculeux. Élie est nourri par ce que possède cette femme, ce que possède cette femme ne s'épuise pas par la parole d'Élie. Eh bien, il est bon de repérer, de faire mémoire de ces aides improbables qui nous ont été données et qui préfigurent aussi celles qui nous attendent encore. Je voudrais là, de façon vraiment personnelle et sans aucune prétention, faire mémoire d'un petit épisode, encore quand j'étais en Russie, toujours à vendre des voitures. Et un jour, je me retrouve, c'est en janvier, il fait moins 15 dehors. J'étais à la douane très très loin du bureau, je n'avais plus de voiture, le chauffeur était parti. Et la douane ferme de midi à 14 heures. Donc j'y étais depuis 9 heures, donc je me retrouve dehors. Je suis pas dans un village, c'est un peu perdu dans la campagne. Donc je m'apprête à attendre jusqu'à 14 heures, assis sur un pneu dans la neige. Et puis il y a des gens qui s'arrêtent en voiture, ils me disent « Vous faites quoi là ?»« Ben, j'attends que la douane ouvre, mais elle n'ouvre qu'à 2 heures. »« Oui. » Et là, déjà, les gens me proposent « Mais venez, on va au village à côté, on vous emmène et on vous ramène après. » Je ne les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ils se sont arrêtés et ils m'ont proposé de profiter de leur aide. Une aide tout à fait inattendue, une aide que je n'avais pas méritée, une aide que je n'avais pas prévue, un secours improbable. Le Seigneur sait mettre des secours improbables là où on ne les avait pas imaginés. On voit que c'était la difficulté d'Élie de penser qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient l'aider. Élie, il a une grande difficulté qui va se manifester après le sacrifice du Carmel, c'est qu'il pense qu'il est le seul fidèle et on cherche à le faire mourir. Il est un peu désespéré, il est un peu dans cette idée qu'il est le dernier d'une race qui s'éteint. Et voilà que le Seigneur lui apprend qu'il s'est réservé un peuple, 7 milliers de fidèles qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. « La moisson est abondante, dit Jésus, les blés sont mûrs pour la moisson. Aussi étonnant que cela nous semble, des cœurs sont prêts pour l'Évangile et ils sont nombreux. » Elle a tout donné. Jésus a insisté sur le fait qu'elle a pris de son indigence et qu'ainsi elle a donné plus que tout le monde. Eh bien, le Christ révèle que la valeur d'un don ne se limite pas à son caractère objectif. Le don ne vaut pas seulement pour sa valeur monétaire. C'est pas seulement ça coûte cher ou ça coûte pas cher. C'est pas seulement ça qui fait la valeur du don. C'est le don de soi qui fait la valeur suprême. Et ça, c'est une ouverture de l'espérance sur nous-mêmes. Parce que se donner, nous en sommes tous capables. Chacun peut s'offrir soi-même, jusque dans sa pauvreté, et peut-être surtout dans sa pauvreté. Parce que c'est vrai, il est relativement facile d'offrir ce que l'on fait de bien, ce que l'on sait faire. On l'a tous vu, hein, quand un enfant maîtrise son premier morceau de musique, il est tout fier de l'interpréter, au point que parfois on lui dit « Arrête un peu, là, ça fait la 50e fois que tu me le joues depuis ce matin. » Il est très heureux de présenter ce qu'il sait faire. Mais offrir de son indigence, c'est accepter d'être envoyé là où ça nous fait un peu peur. C'est parfois une responsabilité nouvelle, un catéchiste nouveau, les nouveaux parents qui découvrent l'éducation de leurs enfants, le chef scout qui arrive en mission. C'est aller saluer celui qu'on tient un peu à l'écart, parce qu'il n'a pas la même tête que nous. Je suis pauvre, je ne sais pas trop pas trop quoi dire, mais pour Dieu, je l'offre parce que lui en déploiera la valeur. C'est accepter parfois une démarche pour aller vers l'autre, pour aller se réaccorder, ça grince au départ. Parfois on se dit, mais ça m'a fait mal, mais si ça m'a fait mal, c'est aussi parce que je t'aime et que je veux être aimé de toi. Et donc apparemment je n'ai pas beaucoup de force, je n'ai plus beaucoup de force. Oser offrir sa pauvreté, oser offrir le désir d'être en communion, parce que le Seigneur voit. Jésus qui regarde cette femme déposer son offrande dans le temple, c'est la mise en application de ce que saint Matthieu révélait, Dieu voit dans le secret ce que tu fais. Elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, toute sa vie. Et ça, c'est aussi intégrer le temps. Intégrer le temps. Une aumône qui s'intègre dans le quotidien, qui est pensée dans le quotidien. Il y a une habitude du don qui se prend, une habitude du don qui se développe dans la mesure justement où on l'intègre au quotidien. C'est une chose qui m'avait été enseignée et que je garde, et que je tâche de garder précieusement à l'âge où on a commencé à me donner de l'argent de poche et de me dire ce que tu reçois, tu l'as reçu gratuitement. Et donc il faut que tu prennes toi aussi l'idée de donner gratuitement, qu'il y ait une part de ce que tu reçois qui soit aussi donnée gratuitement. Cette habitude d'avoir cette idée du don ancrée dans notre vie, de donner de ce que moi j'ai reçu, et que ça fasse partie comme de ma respiration. Notre paroisse a bénéficié de dons importants d'autres paroisses de Paris, de donateurs pour faire les travaux, pour refaire l'électricité. Et notre paroisse qui reçoit pour son fonctionnement une aide de l'extérieur contribue aussi dans une contribution volontaire de solidarité pour d'autres églises de Paris. On reçoit beaucoup plus que nous ne donnons, mais nous avons fait ce choix de donner aussi pour garder cette habitude. Il est bon, il est important, si nous voulons entrer à la suite de cette veuve, de prendre cette habitude, de choisir cette habitude, une aumône qui intègre le quotidien. Alors Seigneur, toi qui te tiens désormais pour nous devant la face de Dieu, toi qui vois la profondeur de notre don, dans notre misère, imprime dans notre cœur et notre mémoire le don de la pauvre veuve. Fortifie notre espérance pour la mission. Tu nous prépares des aides sur le chemin. Tu nous rends capables chacun d'un don de grande valeur, jusque dans notre indigence. Amen.